France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Comment va l'Irak, dont on parle moins, qui semble être assagi? Nous posons la question ce soir grâce à un film magnifique. Il sort ce mercredi, Le gâteau du président. L'histoire nous replonge dans les années Saddam, mais son jeune réalisateur nous emmènera dans son Irak d'aujourd'hui, plus stable mais encore fragile. Qu'est-ce qui a changé au Venezuela, un mois pile après l'intervention spectaculaire de Trump? C'est Louise Baudet qui nous le dira en remettant le monde à l'endroit. Le reportage est en Birmanie, ce soir encore, deuxième et dernier volet d'une série dont ce pays repris en main par les militaires il y a 5 ans après une brève séquence démocratique pour se soigner désormais. La Thaïlande voisine sert d'échappatoire quand c'est possible.
Ici, on se sent bien mieux pris en charge. C'est très différent de la Birmanie. Quand on pose des questions, les médecins nous répondent gentiment.
Un reportage à découvrir ensemble autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé Taïwan, qui affiche un taux de croissance de presque 9% et qui dit merci qui ? Merci les puces électroniques. Et puis Caroline Gillet, au pays des 27, est au fond de son lit, rien de mieux qu'un grand coup de vapeur. On se replonge avec elle dans la diplomatie européenne du sauna, figurez-vous. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. Bonsoir Hassan Hadi.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Ce film dont on vient d'entendre très brièvement la bande-annonce s'appelle Le gâteau du président. Certains ont pu le découvrir déjà lors de la quinzaine des cinéastes à Cannes. Vous avez été récompensé de la Caméra d'Or. C'est l'histoire d'une petite fille qui est désignée pour faire un gâteau d'anniversaire au président Saddam Hussein pour son anniversaire. Nous sommes dans les années 90. Vous avez vécu ces années-là que vous montrez dans le film, Hassan Hadi, et c'est probablement un peu vous, cette petite fille. Est-ce que c'est vous, d'ailleurs ?
Yeah, well, thank you for having me.
Merci beaucoup de me recevoir.
Every year, our teacher would walk in.
Oui, tous les ans, notre instituteur, un petit peu avant l'anniversaire du président, nous demandait de mettre nos noms dans une boîte. Et donc, il piochait des noms dans la boîte pour différentes choses. Et le plus difficile était celui qui était choisi pour faire le gâteau. Cette année-là, moi, j'ai choisi pour des roses. Mais c'était moins important que le gâteau, parce que en fait, les roses ne se mangent pas. Comme vous l'avez dit, le film est vraiment inspiré de mes souvenirs d'enfance, ou des souvenirs de proches ou d'amis qui ont grandi dans les mêmes conditions. Et il y a beaucoup de similitudes, évidemment, entre ce qui lui est arrivé à elle et ce qui m'est arrivé moi, enfant, mais pas exactement non plus.
Si vous avez choisi cette période, Hassan Hadi, c'est parce que c'est celle de votre enfance, vous le dites, vous la connaissez bien, mais est-ce que ça veut dire aussi que cette peur immense de Saddam que l'on voit dans ce film et cette période de sanctions qui a pesé extrêmement fort sur les gens, est-ce que ça veut dire que cette période est encore dans votre tête et peut-être d'ailleurs encore dans toutes les têtes en Irak ?
Yeah, I would say definitely.
Oui, je dirais que c'est aussi parce que quand on fait son premier film, on a envie de traiter des lieux et des personnages qu'on connaît. Et c'est à la fois un lieu et une période qui est une sorte de trou noir dans l'histoire de l'Irak. Personne ne savait ce qui se passait. La communauté internationale n'intervenait pas et on était complètement séparés de la communauté internationale. Mais l'impact de cette période est toujours sensible aujourd'hui. Et ça n'avait jamais été traité au cinéma. Et quand j'ai fait ce film, c'était vraiment la première fois qu'on faisait un portrait de cette période de l'histoire d'Irak.
Et qu'on
creusait des thématiques et des situations qui ont encore des effets aujourd'hui.
Si vous avez pu tourner d'ailleurs en Irak et si vous avez pu raconter cette histoire, est-ce que c'est aussi parce que doucement cette période commence à être expurgée par votre pays ? Ou est-ce qu'au fond c'est toujours aussi difficile de la raconter ?
Now it's better, but I wouldn't
Aujourd'hui,
say
les choses vont mieux, mais ça n'est pas parfait. Condamner le passé, ça ne veut pas dire que le présent est parfait. Mais oui, vraiment, les choses progressent aujourd'hui en Irak par rapport aux années 90. Cette période, j'avais envie d'expliquer ce que ça voulait dire, les sanctions et la guerre, et tout ce qu'il faut surmonter au quotidien.
Cette dame, ça m'a frappé, on ne prononce pas son nom. Et on sent bien qu'on a peur, tout le monde a peur autour, parce que tout le monde est ouvertement corrompu, tout le monde a le sentiment qu'il peut vous taper derrière l'épaule à n'importe quel moment, y compris votre jeune héroïne, sans raconter l'essentiel du film, et qui va finir par voler pour les avoir ses œufs et sa farine. Et au fond, c'est comme ça qu'un dictateur gagne. Il corrompt les valeurs, il corrompt les esprits, même des plus innocents. Et j'ai le sentiment que c'est aussi ça que vous vouliez raconter. La dictature corrompt les esprits.
The most dangerous thing about them, that they
Ce qui est le plus dangereux dans la dictature, c'est que ça change la nature humaine et de la société.
Alter our behavior.
Ça modifie nos comportements. On devient hypocrite, on devient menteur, on devient corrompu, parce qu'il faut bien survivre. On a besoin d'agir un peu en dehors de ses aspirations. Donc oui, je voulais montrer ce que fait la dictature et ce que la corruption fait au peuple.
Et ce qui est
amusant, c'est que quand Saddam a été écarté du pouvoir, il y avait 40 millions de statues, de portraits, de photos. Donc chaque Irakien avait chez lui sans doute au moins 2 portraits ou 3 de Saddam.
Quand on tourne, comme vous l'avez fait, des scènes de liesse et de cris à la gloire de Saddam Hussein dans une rue irakienne, puisqu'encore une fois, vous avez tourné là-bas, comment c'est perçu par les gens qui regardent ?
Évidemment, ça déclenchait des sentiments très forts chez les gens, il a fallu faire attention. Dans une des scènes, on a tourné la scène et certaines personnes l'ont filmé sur leur téléphone et l'ont posté sur les réseaux sociaux. Et quand on a fini de tourner, de retour au bureau de production, mon téléphone sonnait dans tous les sens. Et en fait, les petites vidéos sur les réseaux sociaux ont été ensuite reprises par les agences de presse. Et on a commencé à dire que des soutiens de Saddam Hussein étaient descendus dans la rue. Et ça a failli devenir vraiment très, très politique, très polémique. Et ça a un peu secoué le Parlement, c'est remonté assez haut. Il a fallu qu'on explique un peu à tout le monde que c'était pour le tournage d'un film. Et que c'était une scène, évidemment, c'était un film d'époque, pour un petit peu dégonfler la chose.
Ça parle de fragilité, cette anecdote que vous nous racontez, fragilité à la fois de votre pays, mais fragilité au fond aussi des gens qui y habitent. Et j'y pense aussi parce que vous avez choisi de tourner avec des acteurs qui sont non professionnels, donc d'une certaine façon, eux aussi ont fait appel à leur propre mémoire et leur peur enfouie pour tourner avec vous.
Oui, j'ai choisi de tourner avec des non-professionnels.
Ils sont tous
non-professionnels. Pour moi, vraiment, c'était indispensable au film. Et il faut dire aussi que le film a quand même un traitement un petit peu documentaire et c'était bien d'avoir des visages et une familiarité avec cette période-là.
Et
pour les enfants qui n'ont jamais vécu sous la dictature de Saddam Hussein, c'était pas forcément évident, mais en fait, je leur ai raconté des souvenirs de mon enfance à moi. Et moi-même, même si j'ai grandi sous cette dictature, mais ce qui me faisait plus peur que Saddam Hussein lui-même, c'était le professeur, l'instituteur. C'était un peu lui, mon Saddam personnel. Et la peur des enseignants est toujours palpable en Irak. Donc pour eux, c'était facile de s'identifier à ça.
C'est intéressant parce que vous ne dites jamais où nous sommes. Le village flottant où la petite fille habite est absolument magnifique, mais la ville est inconnue. Est-ce que c'est parce qu'au fond, ça n'a pas d'importance? Parce que c'était partout la même peur, les mêmes mini-Saddam, comme vous dites, dans la peau de chaque instituteur, et la même lutte pour survivre. Peu importe où on est en Irak à ce moment-là.
Oui,
c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas forcément trop souligner l'endroit. Je voulais vraiment mettre l'accent sur les personnages et les situations. Et il y a un ton de réalisme magique dans le film et de conte de fées. Donc le plus important, c'était le ressenti, les émotions, les personnages, les situations et les incidents, plus que les lieux, parce que je ne voulais pas que ça éclipse ce qui se passe à l'écran.
Vous l'avez montré déjà en Irak, votre film ? Quelle a été la réaction ?
Oui,
nous avons eu une sortie limitée au cinéma et nous aurons une sortie plus large en mars. L'accueil a été globalement extrêmement ému, positif. Et c'est un film qui fait un portrait d'une période extrêmement importante dans la vie des Irakiens. Donc ça les a beaucoup touchés.
Those locations,
se retrouver ces lieux, retrouver des gens de leur communauté qui sont à l'écran. Et évidemment, ça a déclenché des choses très fortes, ça a fait remonter des choses, et aussi pour la diaspora irakienne.
Vous nous disiez tout à l'heure que ce pays sans aller bien va mieux aujourd'hui, et vous le disiez, certains de vos acteurs, vos plus jeunes acteurs, n'ont absolument pas connu cette période-là. D'ailleurs, l'Irak a une population extrêmement jeune, hein, 60% de la population a moins de 25 ans. Il y a eu beaucoup de moments très chaotiques dans ce pays depuis la fin de la guerre, depuis 2003, beaucoup de tiraillements, la tutelle iranienne, la tutelle de Washington. Et il y a même eu des moments de révolte. On se souvient, nous, de 2019. Cette révolte-là, cette colère, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui en Irak ? Est-ce que ça s'exprime, ça, ou pas du tout ?
I think that the anger is reduced.
Je pense que la colère a diminué.
And I think people have come to the terms that
et they que les gens ont accepter l'idée de regarder vers l'avenir. Mais nous restons dans une région très fragile, avec la Syrie, le Liban, l'Iran. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Irak où il y a des guerres un peu tout autour, alors que l'Irak essaye de rester neutre et de s'éloigner, de rester à distance. On a beaucoup appris de l'histoire et il nous reste encore beaucoup à apprendre. Je pense que le plus important, c'est qu'il y a une envie de progresser, mais ça ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas des pas en arrière.
C'est intéressant parce que, comme vous le disiez, l'Iran a été extrêmement secoué ces derniers mois, ces dernières semaines et même ces derniers jours. Et chez vous, il ne s'est rien passé. Et en effet, est-ce que vous, vous l'interprétez comme un signe de, j'ose pas dire stabilité, peut-être de maturité, en fait, dans votre pays, à Sanadi ?
I think there is a sense of growing up.
Oui, je pense que nous grandissons, nous évoluons, un peu de maturité, mais je ne dirais pas que c'est définitif. Il y a beaucoup de pression sur l'Irak, au niveau géographique. Mais je crois que le fait que l'Irak ait réussi à rester à distance de conflits, c'est un signe de maturité.
De compréhension des
erreurs du passé. Que le fait de s'engager dans le conflit ne cause que du malheur et de la pauvreté dans la population.
Ça veut dire qu'il y a une fenêtre pour des gens comme vous, Hassanadi, pour les artistes, pour les auteurs, pour les cinéastes. Il y a quelque chose à inventer, c'est votre génération qui va le faire. Tout est réuni, en tout cas peut-être, maintenant, pour qu'une génération de cinéastes, par exemple, comme vous, émerge.
Je pense que pour que
les cinéastes émergent en Irak, il faudrait beaucoup plus de soutien gouvernemental. Il devrait être inconditionnel, ce soutien. Et ça, on a encore besoin de le faire comprendre au plus haut de l'État. Il faut faire comprendre qu'on n'est plus à l'ère de la propagande, où on peut imposer les idées. Il faut vraiment soutenir les artistes sans condition. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile à faire comprendre. Ça progresse doucement, il y a quelques petits financements publics, mais on ne sait pas si ça va continuer. Et il y a aussi un rôle à jouer par le secteur privé pour soutenir les artistes.
Mais
je reste optimiste quand même sur l'avenir. Je pense que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de cinéastes irakiens pour parler de la situation et de leur pays.
En tout cas, votre film est magnifique. Il s'appelle Le gâteau du président. Il est en salle ce mercredi à Sanadi. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Merci à vous aussi, Anaïs Duché, pour la traduction.
Thank you very much.
La suite, ce soir, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
C'est là qu'a commencé une année tonitruante. Au Venezuela, l'enlèvement d'un président il y a tout juste un mois. Donald Trump revendique la victoire. A-t-il raison ?
Juste après ça.
Cells and your cells need news. Try to make a map of the heart. Down your hollow tube. I hope to find a small flat joy with.
S'appelle Nettoyage à sec, figurez-vous, Dry Cleaning, et le titre c'est Joy, des habitués de la playlist d'Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Louise, pourquoi Donald Trump crie-t-il victoire au Venezuela, peut-être un peu trop vite?
Oui, on est pile un mois après la capture du siècle. Spectaculaire enlèvement au cœur de Caracas. Nicolas Maduro emprisonné depuis à New York dans l'attente de son jugement pour conspiration narcoterroriste. Un mois plus tard, le président américain exulte. Le pouvoir vénézuélien est à sa botte et il a fait main basse sur les plus grandes réserves mondiales de pétrole brut. Sauf que ce récit triomphal comporte quelques zones d'ombre. Certes, le Venezuela rouvre son secteur pétrolier aux acteurs privés, balayant le modèle étatiste parachevé par Hugo Chavez et sa révolution bolivarienne. Plus besoin désormais de s'associer à la compagnie nationale pour explorer, extraire, transporter ou commercialiser du brut. C'est open bar avec la bénédiction de Donald Trump qui exhorte les majors américaines à venir se servir.
Sauf que les compagnies pétrolières ne partagent pas son enthousiasme.
Et non, ExxonMobil, ConocoPhillips et quelques autres, échaudés par le souvenir cuisant des expropriations d'hier et refroidi par la perspective peu exaltante d'exploiter ce pétrole lourd, visqueux, extrêmement polluant, dont le coût de revient est plus élevé que le prix du marché. Sans oublier les énormes investissements nécessaires pour réparer les puits, les pipelines qui fuient, le réseau électrique défaillant, après des décennies de corruption et de mauvaise gestion. 100 milliards de dollars pour redresser le secteur pétrolier, la note est salée, même pour Chevron, la seule compagnie américaine qui opère
encore au Venezuela.
Et pour faire des affaires, il faut surtout de la stabilité politique.
Oui, Donald Trump a promis aux majors une sécurité totale. Et c'est vrai que Delcy Rodriguez, la présidente par intérim qu'il a laissée s'installer au pouvoir, est très conciliante. Pour la galerie, elle reste chaviste et anti-impérialiste et organise de grandes marches en son et lumière pour condamner l'enlèvement de Nicolas Maduro. Mais cela ne l'empêche pas de mettre en œuvre les changements réclamés par Donald Trump et même de donner des gages sur un terrain qui intéresse peu le président américain, celui de la transition démocratique. En témoigne cette amnistie générale annoncée la semaine dernière, quand jusqu'ici les prisonniers politiques ont été libérés au compte-gouttes. Alors le régime est-il en train de changer? Trop tôt pour le dire, il est en tout cas résolument sous tutelle. Delcy Rodriguez étant menacée de connaître le même sort que Maduro si elle venait à s'écarter de la ligne tracée.
Et en attendant, Donald Trump la trouve formidable.
Oui, formidable. Le président américain adore distribuer les qualificatifs de ce genre avant de se contredire le jour d'après. Il souffle en permanence le chaud et le froid pour in fine tétaniser ses interlocuteurs. Cible privilégiée, les chefs d'État latino-américains, puisque cette sphère occidentale est sa chasse gardée. Prenez Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique. Merveilleuse, très intelligente, a dit la semaine dernière Donald Trump, qui, il y a 15 jours à peine, menaçait de frappe terrestre le narco-État mexicain. Autre victime, le président colombien Gustavo Petro, très sympa depuis un mois ou deux. Il a beaucoup changé son attitude, ironie et menace voilée à l'encontre de l'ancien guérillero qui avait parlé de reprendre les armes après l'enlèvement de Nicolas Maduro. Gustavo Petro est ce soir à Washington, dans le bureau ovale, rencontre qui pourrait bien tourner au traquenard puisque tout est désormais possible. Et c'est sur ce point que Donald Trump tire un bénéfice certain de l'aventure vénézuélienne. Sa capacité à terroriser tout le monde s'en est trouvée décuplée.
Merci beaucoup Louise Baudet, et à demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Birmanie, ce soir encore, deuxième volet d'une série dans ce pays, repris en main par les militaires il y a 5 ans, presque jour pour jour, après une courte période démocratique. Retour donc en Thaïlande, le pays voisin. Hier, nous étions dans les écoles pour tous les jeunes réfugiés birmans. Aujourd'hui, comment se soigner quand la junte a détruit des hôpitaux, que le système de santé s'effondre? Celles et ceux qui le peuvent vont donc se soigner de l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, où nous sommes, principalement dans la clinique Metao, fondée en 89 lors d'une autre crise majeure par une médecin birmane. Le reste, c'est Juliette Chénion qui raconte.
Une cinquantaine de malades patientent en extérieur, assis sur des bancs en bois sous un préau et rafraîchis par les ventilateurs.
Ici, vous voyez les vaccinations des enfants, la pharmacie, et si on continue de l'autre côté, il y a les hospitalisations et les salles d'accouchement de la clinique de Maetao.
Annie est l'une des responsables de l'établissement. La clinique est financée par des ONG, des gouvernements et des dons privés. Plus de 300 patients consultent chaque jour. Il y a aussi 140 lits d'hospitalisation.
Depuis le coup d'État, nos dépenses opérationnelles ont augmenté. On a plus de patients, de maladies chroniques et des hospitalisations plus longues qu'avant.
La clinique enregistre donc une hausse d'un tiers des consultations. En cause, l'arrivée massive de Birmans fuyant leur pays et l'effondrement du système de santé en Birmanie. Ici, près d'un patient sur 5 a traversé la frontière pour se faire soigner en Thaïlande.
Les soins sont gratuits. On encourage les patients à participer si possible, mais la plupart ne peuvent pas payer les frais.
C'est pour cela que Cathy, c'est un surnom, a traversé illégalement la frontière ce matin-là. Seule une étroite rivière sépare Miawadi en Birmanie de Mesot en Thaïlande.
En Birmanie, si je vais voir un médecin à l'hôpital public, il nous envoie ensuite acheter des médicaments ailleurs ou voir des spécialistes. Et ça coûte trop cher. Si on n'a pas d'argent, on n'est pas bien soigné. Et comme je suis très pauvre, je viens ici.
Parmi les patients, de nombreuses femmes enceintes et des enfants. Tacho consulte pour sa fille de 18 mois. Elle a pu venir légalement.
Elle a le nez pris.
Elle s'étouffe un peu.
Ici, on se sent bien mieux pris en charge. C'est très différent de la Birmanie.
Quand on pose des questions, les médecins nous répondent gentiment.
Les enfants souffrent de malnutrition, de problèmes respiratoires et de peau, expliquent les pédiatres. Pour les cas complexes, la clinique renvoie les patients vers les hôpitaux publics thaïlandais et paye la facture.
Je n'ai pas de mots pour décrire comme je suis heureuse. Ils ont sauvé mon enfant.
Le fils de Ney, 5 ans, avait une maladie cardiaque. On voit une cicatrice sur son torse. Pour venir depuis le centre de la Birmanie, le trajet prend 5 à 9 jours, raconte Ney.
Sur la route, il n'y avait pas de bataille, mais de très nombreux checkpoints de la junte. Comme ma carte d'identité indique que je suis d'une certaine région bien particulière, on doit payer beaucoup d'argent sur le chemin.
Avec une dizaine d'autres familles, Ney dort sur une natte, hébergée à la clinique depuis 4 mois, le temps de convalescence du petit garçon. Ney s'apprête maintenant à repartir en Birmanie.
Je suis inquiète car j'ai entendu qu'il y a eu récemment des bombardements près de chez moi.
Dans cette clinique, la prise en charge de blessés de guerre a augmenté de 40% l'an dernier et les consultations pour troubles psychiques ont plus que doublé.
Juliette Chénion pour le reportage et pour la série, merci beaucoup. La suite, c'est vous, Guillaume Audin, et vous allez la chercher sous les radars.
Sous les radars, à Riyad, où l'ennemi d'hier, Erdogan, est reçu en grande pompe, Turquie, Arabie, pour une lune de miel au Levant.
Et Caroline, au pays des 27, ce soir, une rediffusion, la diplomatie parallèle en Europe, qui finit parfois dans un sauna, alors que Caroline Gillet est au fond de son lit et qu'on embrasse donc de très loin. Restez avec nous, nous allons à Londres pendant le confinement, quand les artistes sortaient des albums enregistrés chez eux. C'était le cas d'Olivia Dean, Dynamite. Ça date d'octobre 2020 et c'est le choix musical de Djoubaka. Yo, I'm not the same little girl that grew up next door to you. Went through all the things the teenage girl goes through. Hanging out all night, I'm breaking my curfew. When my daddy hit the door, I gave my mama the blues. Used to spend my time blazing, lazing days away. Thought I was grown, left home at 15, didn't want to obey. Had to get my act together, couldn't take the heat. But now I'm making beats for the streets. I miss Dynamite. Up all night, listening to my family vibe until the morning light. Remember my first years of school, I was so innocent. I just wanted to learn, I'd never been so content. But the more that I learned, I found a guiding light that showed me the need to fight and be Miss Dynamite. I'm just Miss Dynamite. With this guy, anytime I caught his eye, I thought that I just died. Remember playing cross clown, I was a disruptive fool, and the beating that I got for time for sending from school. Remember Sunday school when I had to go to grandma's for lunch, macaroni, rice and peas, chicken and pineapple punch. Never had much, my mom, brother, sister and me, but that was enough to succeed. To grow up dynamite, stay growing up, stereo. I'm just Miss Dynamite. Olivia Dean, Dynamite, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Il remonte de dessous les radars avec l'actu internationale dans sa besace, c'est Guillaume Audin.
Welcome to In and Around War, a podcast of the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.
Et dans votre besace, Guillaume, il y a 551 pages, 28 auteurs. L'Académie de Genève pour le droit international vient de publier son rapport annuel et sans surprise, son constat est accablant.
Et on va y aller tout droit. Hein. Le droit international humanitaire s'effondre sur les 71 conflits armées qui ont agité notre planète ces 18 derniers mois. 23 ont été passés au crible par ce think tank associé à l'Université de Genève. On y apprend que plus de 100 000 civils, hommes, femmes et mineurs sans défense ont été tués. À Gaza, par exemple, 18 600 enfants ont péri sous les bombes de l'armée israélienne qui ne conteste plus ces chiffres. Il y a le Soudan également qui retient l'attention, mais encore le Congo, Haïti, la Birmanie et bien sûr l'Ukraine. Partout les mêmes crimes, partout les mêmes scènes. La répression du mois de janvier en Iran n'a pas été comptabilisée, elle le sera dans le prochain rapport, mais on a en tête ces 30 000 civils massacrés sous les balles du régime. 30 000 civils massacrés sous les balles du régime. La leçon de cette étude, les atrocités se répètent parce que les précédentes ont été tolérées. C'est cela qui tue le droit international.
Première étape d'une tournée régionale du président turc au Moyen-Orient. Erdogan est en Arabie Saoudite.
Dans un contexte turbulent au moment où les États-Unis massent une armada aux portes de l'Iran et avec cela la perspective d'une frappe américaine que ne souhaitent ni Riyad ni Ankara. Si la guerre éclate, la Turquie redoute un afflux de centaines de milliers, sinon de millions de réfugiés iraniens sur son territoire. Les deux pays sont frontaliers. Quant à l'Arabie Saoudite, elle craint d'être la cible collatérale des missiles de Téhéran tout autant qu'un choc pétrolier. Et donc, visite en grande pompe ce mardi. Jusqu'ici, les différends entre les deux nations ne manquaient pas et au premier rang desquels l'affaire Khashoggi, journaliste saoudien assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par les services secrets de Riyad, c'était en 2018. Mais voilà, 8 ans plus tard, les circonstances poussent Erdogan et MBS, le prince Ben Salman, à enterrer définitivement l'âge de guerre. Il y a des intérêts communs, on l'a vu, et de réels points de convergence sur l'avenir de la Syrie notamment. Arabie Saoudite et Turquie pourraient même signer un accord de défense aux grandes dames d'Israël qui observent tout cela d'un œil inquiet.
Le sourire que vous ne voyez pas, mais que vous devinez de cette chef d'entreprise taïwanaise. Elle vend ses produits comme des petits pains. Jamais l'économie de son pays ne s'est portée aussi bien.
Taux de croissance fulgurant en T4, disent les économistes. 12,4% au quatrième trimestre. Voilà pour l'explication. L'économie à Taïwan a tourné à plein régime en 2025. Le PIB de cette île a cru de 8,64%, presque 9%, loin devant la Chine et ses 5%, et à mille lieues du Japon et de la Corée du Sud, respectivement 1 et 0,9% en Asie. Le vrai dragon, c'est donc Taipei. Sa croissance record est portée par l'explosion de la demande mondiale de semi-conducteurs et de puces à très haute valeur ajoutée, les fameuses puces TSMC qui font tourner pratiquement tout ce que compte la planète de téléphones, d'ordinateurs, de voitures, d'avions de chasse qui embarquent de l'intelligence artificielle. TSMC, c'est l'actif stratégique numéro 1 du gouvernement taïwanais. L'entreprise contribue à elle seule à hauteur de 10% du PIB. Les Américains y investissent des sommes considérables et de fait en font un bouclier qui protège encore Taïwan. Mais pour combien de temps encore, Fabienne, d'une invasion chinoise ?
Guillaume Mauda, merci beaucoup. Guillaume, à demain. Le mardi, on ouvre les portes de l'Europe avec Caroline Gillet.
France Inter, le 18-20.
Et ce mardi, rediffusion, pendant que Caroline nous écoute avec sa boîte de mouchoirs et ses antibiotiques, retour sur ces négociations qui ont lieu en dehors des grandes salles officielles, ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Parfois, ça se passe dans des endroits étonnants. Caroline avait justement rencontré, il y a quelques semaines, Clément Perarnaud, qui a écrit une thèse sur la diplomatie parallèle dans le parc du cinquantenaire. C'est là qu'on les retrouve, juste à côté des institutions européennes. Il est beaucoup question d'oiseaux, pour commencer. Si nous étions des oiseaux à Bruxelles, est-ce que c'est pas pile ici que nous irions?
Moi, je m'intéresse aux oiseaux de la commission plutôt. Alors là, c'est ceux qui sont en retard. C'est le walk of shame de la commission.
Parce qu'il est 10h30.
Voilà.
Le walk of shame, la marche de la honte, c'est quand on revient du travail avec les mêmes vêtements parce qu'on n'est pas rentré chez soi la veille.
Globalement, la plupart des gens qu'on voit ici se dirigent soit vers le rond-point Schuman, soit vers les différentes représentations permanentes ou représentations d'intérêt qui sont tout autour du quartier européen.
Et la question que se pose Clément, c'est où est-ce que, dans ces différents bâtiments autour du parc, on prend véritablement les décisions à Bruxelles ?
Tout à fait.
Est-ce que c'est à la Commission ou au Conseil ? Le Conseil, rappelez-vous, c'est le bâtiment en forme d'œuf où se retrouvent les ministres parfois jusqu'à une fois par mois et les chefs d'État plusieurs fois par an.
Tout à fait. Bah, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à l'informalité dans les négociations européennes et notamment les négociations au Conseil.
Parce qu'en fait, les décisions qui sont prises par les ministres et par les chefs d'État au Conseil, elles ont été en réalité préparées et négociées par les ambassadeurs.
Tout à fait.
Qui travaillent dans les représentations permanentes.
En fait, on évalue souvent que les décisions au niveau du Conseil, elles sont prises à 85% au niveau technique, donc les groupes d'experts, et au niveau des ambassadeurs. Donc c'est en fait là où tout se joue. Et c'est là où il y a le moins de transparence et le moins de compréhension sur justement les ressorts de l'influence de ces différents négociateurs. Et donc ça a été un peu au cœur de ma thèse pendant quelques années, où je suis allé dans l'ensemble des représentations permanentes. J'ai même fini par travailler pendant 3 mois dans une des représentations pour comprendre de l'intérieur comment cela fonctionnait.
Clément a passé 3 mois à la représentation permanente du Luxembourg.
Ça m'a donné à voir toutes les formes de solidarité qui peuvent se créer, par exemple, entre deux négociateurs qui sont tout le temps assis, jour après jour, dans le groupe de travail au Conseil, l'un à côté de l'autre. En fait, tous les États en sont assis selon le même ordre. Je ne sais pas, les Français sont tout le temps à côté des Slovènes. Et ce qui fait que les Français et les Slovènes, jour après jour, vont apprendre à se connaître. Parce qu'ils vont mettre leurs affaires le matin, se saluer, et puis le soir, se parler au moment de la pause café. Et donc moi, c'est par exemple une des dimensions de mon travail, c'était de voir dans quelle mesure cette socialisation avait un impact en fait sur l'influence des États.
Et alors ici, autour du Parc du Cinquantenaire, il y a des endroits aussi imaginés pour justement renforcer cette influence ou créer des lieux d'échange informels.
Alors effectivement, là on est dans le Parc du Cinquantenaire, il y a toute une série de représentations permanentes sur l'avenue de Kortenberg. Il y a les Polonais, les Autrichiens et il y a aussi les Finlandais. Et alors, la particularité de la représentation finlandaise, c'est qu'elle accueille un sauna. Au moment où je faisais ma thèse, j'avais reçu une fois une invitation pour discuter du budget pluriannuel européen. Donc ça montre en fait dans quelle mesure la plupart des négociations en fait se tiennent pas nécessairement dans ces grandes salles iconiques Conseil de l'Union européenne. Simplement parce que c'est trop difficile. Comment est-ce qu'on fait pour parler tous à 27? L'ensemble de la négociation se passe en périphérie, soit juste aux abords de la salle, ou plutôt, le plus souvent, dans des bureaux, dans des cafés, dans des restaurants et dans des saunas à la représentation finlandaise.
Peut-on vous laisser ici, chers auditeurs, chères auditrices, le temps d'intégrer ces informations et de vous créer des images mentales? Les fonctionnaires européens, réunis en maillot ou tout nu, l'histoire ne le dit pas, en train de négocier, perlant de sueur, dans une structure en bois. Bon, Clément n'était pas allé dans le sauna.
Ces ressorts en fait, de l'influence, ils sont souvent un peu ignorés parce que très très difficile à étudier, mais ils sont absolument importants. En fait, tous les États n'allouent pas le même nombre de négociateurs à Bruxelles, alors même que tous les États ont le même nombre de dossiers à traiter. Donc, il y a un nombre fixe de législations en cours ou de décisions à prendre, mais on va se retrouver avec les Français à presque une centaine de négociateurs à Bruxelles, alors que des petits États comme Chypre ou Malte en auront péniblement 20 ou 30. Et donc ça, déjà, ça crée un écart de pouvoir assez manifeste, parce que ces pauvres négociateurs ne sont pas en capacité de suivre 7 ou 8 négociations en même temps, tout en étant influents. Et là, on peut penser aux Néerlandais. Pour moi, ça a été vraiment le cas d'école où on a un État, on va dire une puissance relativement moyenne au niveau européen, qui boxe bien au-dessus de sa catégorie.
Ils arrivent à influencer les décisions au-delà de la taille de leur pays et de leur influence supposée, quoi.
Exactement. Ça se traduit par une position néerlandaise qui est adoptée directement après la proposition de la Commission, donc au tout début du processus législatif, alors que d'autres États, on peut penser aux Allemands, sont bien plus lents.
Je lui demande évidemment qui sont les pires. Il répond poliment et timidement que la représentation italienne avait du mal à se faire entendre quand il étudiait tout ça.
Et donc, on peut se retrouver des fois dans une salle où, je ne sais pas, tel négociateur va être en train de faire son shopping en ligne ou en train de réserver ses billets d'avion pendant qu'un point est abordé par quelqu'un d'autre de l'autre côté de la salle, parce que c'est des immenses salles, imaginez, à 27. Certains négociateurs ne sont pas nécessairement motivés par leur travail, ils ne sont pas assez payés, ils pensent déjà à retourner dans à la capitale. Il y a des niveaux d'investissement qui fluctuent en fonction de l'importance politique du sujet, mais même en fonction des personnes en question.
Caroline Gillet, merci beaucoup. Caro, à la semaine prochaine, en pleine forme.